والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب زدنا علما يا كريم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. En islam, hier, on s'était arrêté sur l'étude du hadith qui est rapporté par Imam Muslim, dans lequel Allah, Rabbul Izza, annonce que le jeûne l'appartient. Et c'est uniquement lui qui en assurera la rétribution. On avait rappelé que c'était quelque chose de vraiment unique, de spécifique, parmi toutes les bonnes actions, tous les actes d'adoration. Et on avait dit qu'on allait essayer de développer ce hadith pour essayer de voir en quoi ce jeûne est-il aussi spécial et pourquoi est-ce qu'il est aussi aimé par Allah Azza wa Jal. Alors pourquoi est-ce que cette année on va plutôt vers l'étude approfondie des ahadith sur le mois de Ramadan, alors que les autres années on allait plus sur le tafsir? Toute étude religieuse reste profitable, sauf que on s'est rendu compte, il y a une parole qui est magnifique d'un auteur contemporain qui dit que le mu'min se doit d'être reconnaissant envers Allah qui nous a accordé le jeûne du Ramadan. Il dit que pour être vraiment reconnaissant, il faut être capable de réaliser, l'importance et la portée de ce mois de Ramadan. C'est-à-dire que plus on va connaître l'importance du mois béni, bitafasilihi, avec tous les détails, les points les plus précis, c'est-à-dire par l'étude des hadiths qui mentionnent les vertus du Ramadan, plus on va connaître donc les vertus de ce mois avec leur explication, mais plus on va donner de l'importance au mois. Différente en celui qui aborde le mois béni sans grande prise de conscience et qui en ressort sans vraiment réaliser qu'est-ce qu'il aurait pu obtenir, quel effort donc il aurait dû produire pour obtenir quelque chose d'énorme, et celui qui a bien étudié, qui a appris et qui maîtrise donc les vertus concernant ce mois. C'est pour ça qu'on s'étend un peu plus cette année, bi'idhnillah, sur l'étude de ces ahadiths. Alors premièrement, les muhadithines expliquent que la première chose qui plaît à Allah Azza wa Jal dans le jeûne du Ramadan et le jeûne de façon générale, anna Allah ikhtassa li nafsihi as-sawma min bayni sa'il al-a'mal, qu'Allah s'est attribué le jeûne donc parmi toutes les autres actes d'adoration, parce qu'il y a de le jeûne ce qu'on appelle dhuhurul ikhlas lillahi 'azza wa jalla. Il y a un concentré, il y a un condensé de sincérité, de ikhlas pour Allah, qu'on ne retrouve dans aucune autre bonne action. Parce que le jeûne, c'est une action qui est secrète, بين العبد وبين ربه, entre le serviteur et son Seigneur. Et là, l'auteur rappelle ce qu'on avait un peu développé hier, que le jeûneur a la possibilité, il a accès à la nourriture et à la boisson et ainsi de suite, mais la seule chose qui l'empêche d'assouvir ses besoins, c'est la pensée d'Allah et la prise de conscience du muraqabatullah. Et le muraqabatullah, c'est un point qu'on avait eu l'occasion, bi'idhnillah, de développer dans Riyad al-Salihin, c'est cette pensée permanente d'Allah. Cette pensée permanente d'Allah, c'est-à-dire une prise de conscience à chaque instant qu'Allah nous voit, qu'Allah nous entend, qu'Allah sait ce qu'il y a dans nos cœurs, et donc il y a le regard d'Allah qui est sur nous. Et le mu'min qui arrive à développer ce muraqabatullah, cette pensée permanente d'Allah, c'est un croyant qui ne s'engagera jamais dans les péchés, parce qu'il a pris conscience du regard d'Allah sur lui. Mais c'est également un croyant qui va essayer de faire le maximum de bonnes actions et le maximum d'efforts, parce qu'il est conscient du regard d'Allah sur lui également. Ce sont des notions très simples, très basiques, mais quand le mu'min est conscient qu'Allah l'observe et le voit, et que, par exemple, il avait mis son réveil pour le suhur à 5 heures, parce que pour lui, il se réveille, il mange, et puis c'est fait. Mais qu'à 4h15, il se réveille, et il a le choix entre redormir un petit peu, donc une mi-temps, 45 minutes, ou alors il se dit que non, s'il prend conscience qu'Allah l'observe et le voit, il va se dire que je me dois de montrer à Allah Azza wa Jal toute ma bonne volonté. Et donc, il va se réveiller. Il va faire les ablutions, il va faire le tahajjud, le qiyam al-layl. Et dans cette prière, il va s'appliquer. Pareil pour le salat al-tarawih. En général, quand on arrive à 17, 18e rakat, c'est là qu'on ressent la fatigue. Parce que là, on est à la 85e minute. Là, on a les courbatures, on a les crampes, on a la fatigue qui s'installe. Et ce n'est pas uniquement la fatigue physique, c'est la fatigue mentale aussi, d'une certaine façon. On a parfois un peu de mal à accrocher à la lecture. C'est là que l'esprit commence à s'évader, à vagabonder. Et il commence à penser, demain c'est lundi, non, demain c'est jeudi. Aujourd'hui c'était férié, donc demain qu'est-ce que j'ai à faire? Ah, madame veut dire, il fallait faire les courses. Et ainsi de suite, Shaitan essaie de t'amener vers ailleurs. Ailleurs que avec la pensée de ton Seigneur. Ben là aussi, ce mu'min, il doit être capable de se ressaisir et de ramener sa concentration pour Allah. Et tout ça, ça fait partie d'un travail très important qui est muraqabatullah, la pensée d'Allah. C'est-à-dire que là, à cet instant, quand tu es en train de prier, ben, c'est pas que tu penses qu'Allah te voit et t'entend. Pas uniquement ça. C'est également réaliser qu'Allah est alim bidatis sudur. Alim, c'est le, on va dire, la formule amplifiée de celui qui connaît. C'est-à-dire que Allah, c'est celui qui connaît réellement. Bidatir sudur, as-sudur, c'est là, la poitrine. C'est-à-dire Allah, c'est celui qui sait ce qu'il y a dans les cœurs, dans les poitrines. C'est-à-dire que quand tu penses à quelque chose, Allah sait pertinemment à quoi tu penses. Donc du coup, le muraqabatullah dans ma salat de tarawih, c'est de réaliser qu'Allah, c'est ce que je pense, et donc je ne peux pas me permettre de penser à autre chose qu'à mon Seigneur dans la salat. Autrement, ce serait un manque de respect. Et tout ça, ça fait partie du muraqabatullah. C'est très profond. C'est une pensée permanente d'Allah concernant le fait qu'Allah nous voit dans la vie de tous les jours. Allah nous entend, qu'on va prononcer des paroles, mais qu'Allah Azza wa Jal sait également ce que nous pensons et ainsi arrive à contrôler même les pensées qui émanent dans nos cœurs. Et tout ça, ce sont des qualités qu'on obtient quand on est assidu au jeûne et qu'on l'accomplit correctement. Tout ça démarre de ce verre d'eau qui est devant moi et que je ne bois pas parce que je suis en état de jeûne. Je fais la relation, je pense qu'Allah me voit. Ben, pareil, dans toutes les situations de ta vie, et même concernant les pensées de ton cœur, n'oublie jamais qu'Allah t'entend, et entend même tes pensées. C'est un travail de tazkiyah, de purification intérieure, de réforme spirituelle énorme qu'on retrouve dans le somme. Et c'est pour ça que lorsqu'un mu'min accomplit un mois, mais bien comme il faut, avec dévotion, concentration, il s'est appliqué ce qu'on appelle tahsin au somm, il a jeûné correctement, ben, il ressort de ce mois de Ramadan avec un acquis spirituel qui est exceptionnel, avec une force de iman, avec une force de ikhlas, de pensée d'Allah, de muraqabatullah, avec une puissance d'ihtisab ou l'ajr, d'espoir de rétribution, qui lui permettent d'aborder n'importe quel autre acte d'adoration avec la puissance de la foi, avec une foi qui est extrêmement performante. C'est-à-dire tu n'es plus ce croyant qui accomplit des bonnes actions par routine. Non, tu as des acquis spirituels profonds en toi parce que le jeûne, tout se passe au niveau du cœur. Le contrôle des passions, des pulsions, du regard, de la langue, des pensées, tout ça, ça se joue au niveau du cœur. C'est lui qui donne les informations et qui ordonne et qui se retient et qui interdit. Autre point qui plaît à notre Seigneur, parce qu'on a besoin de rechercher qu'est-ce qui plaît à Allah. Maintenant, vous savez, il y a un hadith qui stipule aussi que si l'humanité tout entière se réunissait pour faire du mal, ben, cela n'affecterait jamais Allah. Tout comme si on se réunissait pour faire le maximum de bonnes actions, ben, cela n'augmente pas la richesse d'Allah. Et si tout le monde fait doua en même temps et on demande des choses extraordinaires, et qu'Allah accorde à chaque personne, 8 milliards de personnes, ce qu'ils ont demandé, cela ne diminue en rien la richesse d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah n'a besoin de personne, et personne ne peut atteindre Allah, personne ne peut affecter Allah. Je l'explique pour qu'on n'ait pas de mauvaise compréhension, quand on dit qu'est-ce qui plaît à Allah. Allah n'a pas besoin de ça, mais c'est la relation entre le Khaliq et le Makhlouq. Et dans cette relation, qui a besoin de qui? Ben c'est le Makhlouq, la créature, qui a besoin de plaire à son Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui décide comment tu meurs, comment tu quittes ce monde, comment tu réponds aux questions de la tombe, comment tu es ressuscité et avec qui, auprès de qui, et quel est ta destinée. Et donc dans cette relation de tadhallul wal khudu, de soumission à Allah Azza wa Jal, il y a de le jeûne une preuve de soumission qui est très puissante et qui est mentionnée dans le hadith qu'on avait cité hier. Yada'u shahwatahu wa ta'amahu min ajli. Que ce croyant abandonne sa nourriture et tout ce qui lui apporte du plaisir min ajli. Et Allah Rabbul Izzah aime voir le serviteur délaisser quelque chose pour Allah. Dans un hadith, le prophète alayhi salat wa salam nous rappelle Man taraka shay'an lillahi 'awwadahu Allahu khayran minhu. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui accorde quelque chose de plus fort, quelque chose de mieux. Et on revient vers cette chose qui était interdite dont on s'abstient pour Allah Azza wa Jal, et cette réaction face à l'interdit et on recule, on repousse l'interdit pour Allah. Ben, l'enseignement, c'est pour ça qu'on parle du jeûne qui est une véritable madrasa, une école pour le mu'min, une réforme intérieure, une réforme spirituelle, c'est quand j'ai vu ce coca, notre jeune frère il sort du collège et que ses amis passent près du camion-bar, chacun avec un coca glacé, et il dit « bois un petit peu », il se rétracte, il réalise que ben il y a un plaisir dedans, mais il y a entre lui ce plaisir. Allah qui l'abandonne, la réaction de foi que cela doit faire naître en nous, c'est nous donner cette force devant n'importe quel péché, même après le mois béni. Et c'est surtout ça, après le mois béni également, être capable de dire non au haram. Et voilà donc un des enseignements très forts du mois béni, apprendre à se contrôler, à délaisser les interdits pour Allah. Et c'est une des raisons pour lesquelles Allah aime particulièrement cet acte d'adoration. Et point suivant, le te mentionne que cette spécificité qu'on retrouve dans le mois de Ramadan, elle sera visible le jour de Qiyama, au moment de la rétribution. Et là, il cite un avis de Soufyan ibn Uyayna, rahimahullah. Il y a eu deux grands Soufyan. Il y a Soufyan ibn Uyayna et Soufyan al-Thawri, barakallah fi. Ce sont les deux grands Soufyan tabi'in. Et Soufyan ibn Uyayna, rahimahullah, dit une parole magnifique, « Iza kana yawm al-qiyamati, yuhasibullahu abdahu, le jour de qiyama, Allah va juger ses serviteurs, wa yu'addi ma alayhi min al-mazalimi, min sa'ili amali, et le serviteur devra s'acquitter de tous les actes d'oppression dans ce monde. C'est-à-dire, si on a fait du tort à une personne, ben, le jour de Qiyama, il faudra s'acquitter de ce mal qu'on a fait aux gens. Avant de recevoir pleinement notre rétribution, on doit régler les comptes qui restaient entre nous et les créatures d'Allah, le mal qu'on a pu faire, les injustices. حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا الصَّوْمُ فَيَتَحَمَّلُ اللَّهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَظَالِمِ وَيُدْخِلُهُ بِالصَّوْمِ الْجَنَّةِ. Et qu'un mu'min peut, Allah nous protège de cette situation, qu'il est possible qu'un croyant ait à donner toutes les bonnes actions qu'il a accomplies de sa vie aux différentes personnes à qui il a fait du tort. Imaginez une personne qui avait un contrôle sur une population tout entière. Il a opprimé des centaines, voire des milliers de personnes. C'est pour ça que être amir, être roi, prince, peu importe, hein, être dirigeant, c'est vraiment un double tranchant. C'est quelque chose de très difficile. Parce que autant on est honoré par quelque chose qui est futile, hein, le ri'a à ça, mais autant on a de comptes à rendre. Et je me rappelle toujours cet avis de Umar ibn al-Khattab. Il dit que si une gazelle venait à mourir près de Basra, je crains être questionné par mon Seigneur. Pourquoi, ô Omar, tu étais Amir al-Mu'mini, tu étais donc calife, tu n'as pas élagué le chemin et enlevé les branches épineuses qui a fait tomber cette gazelle et elle est morte. C'est-à-dire que min shiddatil hirsi, cela montre comment est-ce que Omar al-Khattab avait cette conscience de l'importance de la responsabilité qu'Allah t'accorde. Donc quand quelqu'un est dirigeant, par exemple, et qu'il a opprimé une population, des centaines, voire des milliers de personnes. Après, on n'a pas besoin d'aller aussi loin, des fois même de notre vie, si chaque jour tu fais du mal à une personne. Alors, on revient à une échelle un peu plus humain. D'accord ? Si dans une année, il y a 360, 365 jours, multiplie ça par 10, si chaque jour tu as fait du tort à une personne, Vous savez, le jour de Qiyama, personne ne mettra de gants. Personne ne se dira que non, casse pas la tête, pas grave, ça arrive. Là, wallah, le jour de Qiyama, les enfants essaieront de traîner leurs parents devant le tribunal d'Allah. Les parents n'hésiteront pas à faire porter la responsabilité à leurs enfants. Le mari à son épouse, l'épouse à son époux. C'est-à-dire, le jour de Qiyama, c'est vraiment nafsi, nafsi. Ainsi donc, en ce jour, si on rencontre des centaines, voire des milliers de personnes qui nous pointent du doigt et qui nous reprochent nos agissements, que ce soit nos paroles, nos prises de décision et ainsi de suite, et qu'il aura été défavorable, il y a eu une part de pression, imaginez que pour compenser ces gens, c'est ce qu'on appelle le hadith al-muflis, que le Prophète m'avait expliqué au sahaba, cette personne qui se présente devant le tribunal d'Allah, jour de Qiyam, avec beaucoup de bonnes actions, hajj, umrah, lecture du Coran, dhikr, énormément de bonnes actions. Mais il a fait du tort, faqad dhalama hadha wa shatama hadha. Il a fait du tort à certaines personnes, les a insultés, les a humiliés. Le jour de Qiyama, ils vont reprendre leurs droits. Et comment est-ce qu'ils vont reprendre leurs droits? Ils vont réclamer nos bonnes actions, qu'Allah nous protège. Donc ta lecture du Coran, tu lui donnes ton umrah, tu donnes à cette personne, ton hajj, tu donnes à cette personne. Et Soufiane Ibn Uyaynah dit que la seule action qui reste pour l'homme et qui n'est pas donnée, c'est le sawm. Ça, c'est quelque chose qui est fusionnel. Ça, c'est quelque chose qui reste figé avec le croyant. Et ça, Allah ne laisse pas le jeûne partir. Il reste avec le croyant. Et par ce jeûne, le mu'min entre jannah. Même s'il a été, entre guillemets, dépouillé de toutes ses bonnes actions parce qu'il a fait du tort aux gens. Mais c'est ce sawm-là qui lui permet d'entrer dans le jannah. Et cette citation de Uyayna a été rapportée par Al-Bayhaqi. On va s'arrêter là pour ce soir, Inch'Allah. Donc, ce qu'on a retenu encore, on essaye d'apprendre ce soir, c'est que le jeûne est une école, une formation à la pensée d'Allah et une formation à l'abandon des péchés et des pulsions et des passions pour Allah, Azza wa Jal, qu'Allah nous permette de développer ses qualités durant ces journées de jeûne et ensuite d'emmagasiner ses acquis pour pouvoir les appliquer dans notre vie de tous les jours face à n'importe quelle tentation et face à n'importe quel péché. Wa ma tawfiqi illa billah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.